Accès libre avec Luc Fortin.
Et Isabelle Côté, qui travaille du côté du théâtre aphasique. Madame Côté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
On va l'avoir, notre commissaire.
Oui, c'est intéressant. J'ai très hâte de faire un suivi.
Oui, parce que la semaine dernière, on a sursauté lorsqu'on a vu certaines questions qui avaient été posées dans un sondage. Et on a fait des appels. Et finalement, oui, on va pouvoir causer avec la commissaire adjointe en éthique. Et à l'appréciation pour le commissaire en question, santé et bien-être. On va également parler à deux Catherine.
Juste pour te mêler.
Oui, oui. Puis c'est surtout vous qui allez leur parler.
Ben oui, c'est ça. Alors, on va parler de théâtre, entre autres, et on va parler d'aphasie, bien sûr, vu que j'y suis.
C'est vrai. Avec une nouvelle maison qui, on le souhaite, verra le jour éventuellement. Dans un jour le plus rapproché possible. Et au téléphone, c'est le moment de faire un retour sur la tenue du dernier scrutin fédéral. Nous voulions prendre le temps de façon à ce que tous puissent avoir le temps de s'exprimer, compiler les données. Et là, on regarde un peu si Élections Canada a réussi à, disons, tenir engagement. Linda Gauthier est présidente du conseil d'administration du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Richard Lavigne est directeur général de la Confédération des personnes handicapées du Québec. Madame, monsieur, bonjour.
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 Semble-t-il que c'est le monde à l'envers. Linda est assez positive et Richard représente des gens qui sont déçus.
Ben oui.
Bon, allez-y donc, Linda.
On
aime ça. Alors, Mme Gauthier, allez-y donc.
Ben, écoutez, moi, je voudrais quand même pas entacher ma réputation.
Non,
là.
Non.
J'ai un petit chialage à faire, mais somme toute, on est quand même assez... Donc, il n'y a pas eu de droit de vote qui se sont perdus de notre côté. En tout cas, on n'a pas reçu de plainte suffisante pour aller à la commission des droits pour porter plainte. Sauf que on considère que il y avait des, en tout cas, il y a une pratique, à tout le moins les isoloirs qui pourraient, quand le vote se passe au deuxième étage, puis une personne peut pas aller, son aide à mobilité est trop grande pour l'ascenseur, par exemple, ok, là à dernière minute on peut plus avoir de certificat de transfert,
ouais.
Fait qu'on demande à ce que le l'isoloir et l'urne soient descendus en bas, mais ce n'est pas légal. Alors, c'est là qu'on a un bémol, entre autres.
OK, OK. Sinon, est-ce qu'il y a... Je suis curieux, Linda. Est-ce que les gens vous ont appelé pour vous dire « ça s'est bien passé » ou généralement, on vous appelle ou on écrit lorsque ça se passe moins bien?
Moi, c'est sûr. Généralement, on nous appelle quand ça se passe moins bien.
Ouais.
Alors,
c'est vrai que je ne vous ai pas appelé pour vous dire que ça s'était bien passé.
Non, non, c'est ça. Mais il y a eu, quand même beaucoup d'accommodements raisonnables, mais il y a eu, je pense, certains ratés. Là. Tu sais, comme on voit là, dans les critères qui ne sont pas obligatoires, que les ascenseurs, en fait, on demande si ça prend la clé ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on a pensé du côté des directeurs de scrutin de les évaluer dans l'habitacle? C'est suffisamment grand pour accueillir quand même des aides à mobilité qui sont peut-être de plus grand gabarit qu'un fauteuil régulier, tu sais. Fait que il y a des ajustements, je pense, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, selon moi, là. Ça me fait drôle de dire ça. Il me semble que c'est pas moi qui parle.
Non, mais c'est bien. Non, c'est bien correct. Le but de travailler puis de militer, c'est pour que ça change.
Il faut que ça change.
Ben oui. Richard, de votre côté, au niveau des organismes?
Moi, j'ai 8 sur 10.
Ah, ben quand même.
C'est quand même mieux que c'était. Linda a raison. C'est beaucoup mieux que ça a déjà été. Mais il y a encore des ratés. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter dans les CHSLD, par exemple. C'est des problèmes qui n'avaient pas nécessairement lié avec les limitations fonctionnelles. C'était l'organisation.
Okay.
Hein, les gens, il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas aussi assez d'accompagnateurs, il n'y avait pas d'accompagnement. Il y a des personnes aveugles qui n'avaient pas de gabarit.
Oui, j'ai entendu.
Il y a des places aussi, les gens n'ont pas pu rentrer parce que c'était annoncé accessible, ça ne l'était pas. Il y a des petites choses encore. Et Linda a raison. Heureusement, des fois, ce qu'on fait, ça marche.
Hein? Ouais.
Alors, grâce au Ratnik et Linda, entre autres, qui pousse beaucoup, beaucoup. Nous, quand on arrive au comité à Élections Canada, on a quelqu'un qui nous back en arrière là, pour que ça bouge. Parce que il y a des avancées, mais il faut rester vigilant. Et il y a toujours cette question-là de Oui, on accommode pour un certain type de limitation, mais la question de la gestion de l'identité, ça a été compliqué. La question de l'accompagnement pour aller dans l'isoloir pour les personnes aveugles, notamment avec le CRD, c'est compliqué. Il y a un gros problème de formation. Le gros problème, c'est la formation.
Moi, on m'a dit du côté de la CIS que certains, pas c'était pas généralisé, mais que plus d'une personne n'avait pas eu le droit d'être accompagnée à l'isoloir, soi-disant, parce qu'on avait peur, puisque la personne avait une déficience intellectuelle, que la tierce personne influence. Donc là, c'est comme de présumer, là. Il y a comme présomption de culpabilité.
Bien, c'est ça, je parle de formation, de sensibilisation et encore là, de préjugés. Effectivement, on nous a rapporté ça, mais il y a eu d'autres choses qui ont été rapportées dans le passé, où effectivement, des gens votaient à la place des autres. Alors, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais on doit continuer dans le processus électoral et ailleurs. Il ne faut jamais lâcher. Et le secret, là, c'est la formation et aussi le respect des critères d'accessibilité. Il y a des critères obligatoires, des critères qui sont moins obligatoires, mais qui nuisent à certaines personnes lorsqu'ils sont pas appliqués.
C'est quoi, justement, les critères obligatoires?
Allez-y, Linda.
Ben, il y en a 15, en fait.
Les principaux, disons.
Devant moi, il y en a quand même 15. Là, si je peux, je peux en relater quelques-uns. Il y avait, bon, entre autres, évidemment, ben les allées, il faut qu'elles soient dégagées, que ça soit une entrée de plein pied ou ben par rampe, parce que il y a un éclairage extérieur qui est suffisamment, qui est adéquat. Qu'est-ce qu'il y avait à part ça? Il faut que la porte soit suffisamment large. On parlait de 32 pouces. S'il y a une rampe, la même chose, il faut qu'elle soit suffisamment large aussi. Avec une inclinaison acceptable. Et bon, c'était relativement ça, là, finalement. Mais il y en avait combien, Richard? 40?
Bon, il y en avait beaucoup, je me rappelle plus.
Il
y en avait plein. Un élément aussi, c'est que depuis les dernières élections, il y a comme des agents dans chaque circonscription, là, des personnes responsables pour aider les personnes qui ont des limitations. Et nous, à la COFAN, on a eu des appels des agents qui ne savaient même pas quoi faire. Ça ne va même pas quoi faire pour aider les personnes handicapées. Alors, c'est de la bonne volonté.
Combien de temps à l'avance sont-ils embauchés, tous ceux et celles qui participent au scrutin? Parce qu'on parle de formation, mais ont-ils le temps d'être formés adéquatement?
Ben, c'est ça le problème. Ils ont une heure de formation.
Oh, mon Dieu.
Okay. Alors, peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, Élections Canada aura plus de moyens. On ne sait pas. On ne sait jamais.
Ben, c'est vrai qu'en plus, on parle de renouveler le mode de scrutin. Encore. on en parle encore de ça.
Mais
grosso modo, Luc, je pense qu'on s'entend, Linda et moi, c'est qu'on a avancé quand même.
Oui, on a avancé. Je pense que la jurisprudence James Peter Hughes contre Élections Canada en 2010, 2011, les dernières fédérales, on n'avait pas eu le temps de s'en sentir trop. Ils voulaient accommoder à peu près de toutes parts, mais je pense que là, c'est remis, là, ils veulent y aller de façon conforme, sécuritaire et tout. Fait que c'est ce qui fait qu'on vit un peu ce qu'on vit là. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Moi, j'ai eu une rencontre du comité consultatif là, en février. Ils ont fait le point. Alors, si vous avez des commentaires, il ne faut pas vous gêner de les donner. On est là pour les rapporter. Et le comité va faire le point sur la prochaine élection. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine élection? Et on va espérer qu'on va pouvoir améliorer, travailler sur le vote électronique, entre autres. C'est un beau défi pour l'avenir. Ça.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la liste des candidats en braille dans ma circonscription. Ça a été aidant et intriguant. Linda, vous connaissez quelqu'un qui a pu voter à la maison?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ben, lui était vraiment agréablement ravi parce que, en fait, il avait justement manqué ça aux dernières provinciales. Fait que là, c'était très, très, très facile. On lui a fait confiance. Quand on lui a demandé est-ce que vous êtes en mesure de vous déplacer, il a dit non. On lui a pas posé 1000 questions après ça.
Et donc, ça se fait assez facilement, la personne...
La seule chose, c'est le témoin, là, qui... Bien évidemment, tu sais, ça prend un témoin. Ça fait que ça, c'est un petit peu plus... c'est le problème, je dirais. Mais à part ça, ça a super bien été.
Si je peux me permettre, il y a quand même une volonté que nous, on exprime de changer la loi sur les élections au Canada. La question de la transportabilité des urnes, comme Linda disait tantôt, la photo des candidats sur les bulletins, il faut changer la loi pour faire ça. Alors peut-être qu'on aura là un gouvernement plus ouvert à changer les lois. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire autrement.
Petite question en terminant. Savez-vous si, je pose la question à Isabelle également, je pense aux personnes avec une déficience intellectuelle, est-ce qu'il y a la photo des candidats sur les bulletins? Parce que peut-être c'est plus facile d'identifier visuellement. Non?
Pas au fédéral. C'est sûr qu'on veut le faire mettre au fédéral. Okay. Au provincial, oui, mais au fédéral, ça ne l'est pas. Il faut changer la loi pour ça.
Bon, bonne idée. Moi, vous avez mon accord pour ça.
Bon, ça vaudrait la peine, vraiment, là, pour qu'on sache de qui on parle. Pour certains, en tout cas, je pense à certaines personnes aphasiques qui auraient certainement beaucoup de difficultés à juste lire les noms puis à retenir les noms. Ouais. C'est très difficile pour eux de retenir les noms. Ouais. Alors, vous avez beau avoir une liste de noms comme ça, s'il n'y a pas la photo qui va avec, minimum, non, c'est pas possible.
Charles Lavigne, directeur général de la COFAN, également représentant francophone, en tout cas c'est celui qu'on aime appeler des Canadiens, du Conseil des Canadiens avec déficience, Richard, CCD.
C'est bien beau, c'est bon, tu vas l'avoir.
Merci
beaucoup. L'essayant comme ça chaque semaine. Un nouveau, hein?
Vous êtes bien. Linda, c'est beaucoup plus facile, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Linda, on se parle dans deux semaines parce qu'on veut savoir... disons un petit retour là, sur différents dossiers que le RAPLIC a brassé au cours de l'année. On va commencer doucement notre amorce vers 2016. Alors, on se reparle bientôt.
Parfait, merci.
Merci, bravo le RAPLIC.
Merci, madame et monsieur. Puis nous, on écoute Rufus Wainwright avant de s'intéresser à la maison aphasique.
On me dit, minois mieux que joli, de même on me le dit, et ce compliment me ravit. Il paraît que j'ai un drôle d'accent, joli drôle et troublant, qui vaut un regard caressant. J'ai l'air de voir la vie en rose, mais mon cœur rêve d'autre chose. Et là je suis désormais, et pourtant je croyais lire dans ses yeux qu'il m'aimait. Il mentait, je ne vais pas en mourir, à peine un peu souffrir, mais pas au point de m'en les dire. J'ai l'air de voir.
Alors, c'était Cœur de Parisienne. J'adore sa voix, lui. C'est tellement magnifique.
J'allais justement dire, j'espère que vous l'aimez parce que on en a deux de lui aujourd'hui.
Ah, oh, je l'aime beaucoup.
D'accord. Rufus Wainwright, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu.
Voilà. Il a une voix tellement particulière, c'est difficile à confondre. Alors, aujourd'hui, j'ai ma partie aphasique. Nous parlons des personnes aphasiques maintenant.
Je souris.
Je souris, moi aussi. Et donc, j'avais le goût d'avoir avec moi aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui vienne nous parler d'aphasie, mais autrement, Donc, vous savez bien sûr qu'il y a le théâtre aphasique, mais il y a beaucoup d'autres organismes aussi qui desservent les personnes aphasiques. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Catherine Hébert-Mété, qui est responsable des bénévoles et des services aux membres de l'Association québécoise des personnes aphasiques, donc une autre association qui dessert les personnes aphasiques à Montréal, mais qui font évidemment d'autres types d'activités. Bonjour Catherine.
Bonjour Isabelle.
Et justement, que fait-on à la QPA?
À la QPA, on fait plein de choses.
Oui. Hein?
Premièrement, on accueille les personnes souvent en fin de réadaptation. Donc, nous, on continue à former des groupes pour pouvoir les stimuler au niveau du langage, qui puissent continuer à communiquer, soit par la pratique du parler, de l'écriture, en faisant des activités un peu plus artistiques, comme le chant. On a une chorale aussi. Donc, on essaie que les gens aient une deuxième maison, en fait. Donc, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard aussi de nos projets, d'avoir un vrai milieu.
Un chez-soi.
Un chez-soi, un deuxième chez-soi ou un premier chez-soi.
Et vous avez aussi la particularité d'avoir une section anglophone.
Oui, on a beaucoup de personnes, autant francophones, anglophones, mais il y a plusieurs allophones
aussi. L'aphasie est très démocratique.
Oui, tout à fait. Oui.
On a des gens de tous les pays. On a même commencé un petit groupe en créole récemment.
Ah oui! Ah, c'est intéressant.
Oui.
Ah oui, parce que en plus, ce qui est très, très complexe, évidemment, c'est que les gens vont souvent retrouver uniquement leur langue première. Alors, il y a des gens qui vont être bilingues, trilingues, et après l'AVC, vont se retrouver à la case départ. Donc, s'il y a une langue qui est récupérée, c'est souvent, bon, la langue maternelle, et puis les autres langues apprises sont difficiles à récupérer. Donc, quand on est d'une autre langue, évidemment, ben là, le français redevient difficile
à rajoute
parler
une
à nouveau.
Difficulté, c'est ça. Puis en plus, nous, on peut essayer de trouver des bénévoles pour les aider qui parlent, par exemple, l'espagnol ou on a des personnes russes, bon, tout ça, roumaines aussi. Mais parfois, quand les bénévoles qui parlent ces langues-là ne sont pas là, puis là, les gens s'adressent directement à nous. On peut avoir de la difficulté à comprendre aussi.
Oui, j'imagine.
Ouais, donc,
Est-ce que lorsqu'on parle de petits groupes comme ceux-là, vous disiez que vous accueillez les gens qui sont en fin de réadaptation. Peut-être qu'à un moment donné, bon, on est moins présent à l'association. Est-ce qu'on risque de perdre le bénévole parce qu'il va se lier d'amitié avec cette personne-là et on en perd deux pour le prix d'un? Est-ce que ça arrive?
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question.
Mais exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un ou deux Roumains qui ne vont plus à l'association parce qu'ils ont passé à autre chose, puis ils ont fini leur réadaptation. Et les bénévoles qui parlaient le Roumain s'étaient attachés à ces gens-là.
Ah, mais il y a une petite... Il va falloir que je fasse une petite clarification.
Ben,
parce que quand je parle de réadaptation, ce n'est pas à la QPA.
OK.
C'est avant d'arriver à la QPA. Donc, nous, on ne fait pas de réadaptation.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand on parle de réadaptation, c'est des centres comme Lucie Bruno, ouais. Villa Medica. Puis ensuite, ils viennent à l'association pour continuer à pratiquer, à être stimulés au niveau du langage. Les bénévoles, s'ils se lient d'amitié avec eux, en fait, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on a des visites d'amitié à domicile. Donc, il y a des gens qui reçoivent la visite d'un bénévole hebdomadairement. Puis, ça peut continuer très, très longtemps aussi. Donc, on considère encore que ce sont nos bénévoles. Toutefois, il y a un très gros roulement de bénévoles parce que ce sont en majorité des étudiants. Puis, à chaque semestre, ça change.
Ah oui, effectivement. Ouais. Et donc, vous avez Louise Bourbonnet, qui est la directrice, a entrepris un nouveau projet, ou du moins un projet à long terme, hein, qui s'appelle la Maison de l'aphasie.
Oui.
Et quel est-il, donc?
Donc, la Maison de l'aphasie, c'est un projet qu'on a commencé avec la fondation de la Maison de l'aphasie, qui a commencé le 8 mars 2013. Mais l'idée d'avoir un milieu de vie pour les personnes aphasiques, adapté aux personnes aphasiques, ça fait longtemps que ça mijote là, dans la tête des personnes qui sont impliquées à la QPA. Ça serait vraiment une maison avec des différentes unités de vie qui est adaptée avec peut-être une personne, justement, qui n'est pas aphasique, qui habite dans l'environnement, mais aussi où est-ce qu'on pourrait avoir des lieux très, très relax, là, prendre un café, avoir une petite bibliothèque, avoir des ateliers sur place aussi, donc que ça soit adapté, facile pour le transport adapté aussi, de venir chercher les gens, venir les reporter sans qu'il y ait trop de confusion. Là, où est-ce qu'on est présentement, c'est pas si évident que ça.
Et est-ce que ce serait un endroit résidentiel ou une espèce de centre communautaire où les gens viendraient à ces activités-là?
En fait, on a deux projets futurs, peut-être de déménager l'Association québécoise des personnes aphasiques en tant que telle, d'avoir des milieux plus adaptés, mais d'avoir aussi la Maison de l'aphasie qui serait un milieu de vie un peu comme une coop avec différentes chambres ou appartements où est-ce que les gens pourraient habiter.
On va plus loin qu'un centre de jour.
Oui. Parce que souvent, il y en a qui se ramassent dans des CHSLD alors qu'ils n'auraient pas vraiment besoin d'être là. Il y a peut-être besoin d'un peu de supervision, d'avoir un sentiment de sécurité, que quelqu'un qui est là pour téléphoner s'ils ont besoin ou de gérer le transport adapté, justement, ou des rendez-vous médicaux. Mais il y en a qui sont très jeunes aussi, puis qu'ils sont encore ils sont pas tous non plus hémiplégiques ou en chaise roulante. Donc, si on pouvait avoir un milieu de vie qui est prêt, avec des petits cafés, des bibliothèques, tout ça, dans un milieu quand même actif, ça serait bien aussi que les plus jeunes personnes aphasiques puissent s'impliquer dans leur environnement très, très près de la maison.
Et est-ce qu'il y a un échéancier pour cette maison-là? Est-ce qu'il y a des dates qui ont été lancées pour dire, ben, à partir de tel moment, on aimerait que le projet soit...
Il n'y a pas de date qui a été lancée. Par contre, je sens que la soupe est chaude, là. Ça bouillonne un petit peu là. À ce niveau-là. Il y a la directrice aussi qui va être remplacée très, très bientôt. Donc, elle va pouvoir se concentrer sur la fondation. Et j'ai l'impression que ça va être son projet principal très, très bientôt. Là.
Ah oui, oui,
oui.
Est-ce que de démarrer quelque chose dans cette période d'austérité où déjà des organismes existants se battent et font des pressions et des représentations pour simplement garder le même montant que l'an passé, est-ce que ce n'est pas un peu, je sais pas, kamikaze?
Trop optimiste.
Oui.
Non, ouais. Je pense pas, non, parce que dans le fond, les personnes paient déjà un loyer à leur domicile. Puis, il y en a beaucoup à qui on a demandé, des membres de la QPA, s'ils viendraient vivre dans ce milieu-là. Puis, il y en a beaucoup qui viendraient. Donc, il y aurait déjà une partie du loyer qu'ils pourraient fournir pour ça. Avec la Fondation, c'est certain qu'on sollicite aussi des donneurs au Québec.
Mais est-ce que l'association est appelée à verser des fonds de son budget et y a-t-il un risque que d'autres services écopent parce qu'à un moment donné, on n'avait pas prévu, mais là, on engloutit plus d'argent?
Il y a vraiment un financement à part, je pense. Hein?
C'est un financement à part.
Oui.
Ouais. Parce que la Fondation, elle a été mise sur pied pour financer la QPA. Parce que souvent, on a des subventions, mais on n'a pas assez de la subvention pour mener à terme nos projets. Donc, on fait avec beaucoup, beaucoup de bénévolat, beaucoup plus de choses. Puis, la maison de l'aphasie, moi, je n'ai pas de doute là, avec la détermination des gens qui travaillent à ça. J'ai pas de doute que ça va voir le jour éventuellement.
Est-ce que vous avez parlé à d'autres gens qui faisaient ce type d'hébergement-là conjoint? Je pense entre autres à un projet qui s'appelle Rêve à nous, qui eux ont un établissement dans lequel il y a des personnes avec des déficiences fonctionnelles, également des personnes âgées. Ils sont 79 locataires, je pense, de cet établissement-là. Est-ce que vous avez déjà été en lien avec ces gens-là? Non,
je pense pas. Par contre, on a commencé à regarder un peu d'autres initiatives, comme par exemple la maison de Martin et Matt. C'est un milieu, je crois, qui pourrait ressembler à ce que lui fait avec sa fondation et son milieu de vie.
Donc, plutôt des chambres que des appartements, c'est ça?
Ça peut être des chambres, ça peut être des appartements. Okay. Là, on n'a pas encore décidé exactement de la forme que ça allait prendre.
Parce que Pignon sur Roue, qui offre ce genre avec des personnes en fauteuil. Il y a Habiteuil qui offre pour des personnes avec une limitation visuelle. Mais c'est vrai que ce que vous proposiez, Isabelle, de voir en même temps pour ne pas réinventer la roue et ne pas peut-être piler dans le piège que d'autres ont dû subir, c'est vrai que ça peut être une bonne idée.
Ben oui, absolument. Apprendre, évidemment, des réussites et des erreurs des autres, des fois, effectivement.
Par contre, avec l'aphasie, qu'est-ce qui est difficile? C'est les gens souvent se sentent incompris dans leur milieu de vie. Les gens n'ont pas toujours la patience de les écouter ou de prendre le temps de leur poser les questions, des questions simples pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, dans un milieu adapté, c'est aussi ça là, qu'on comprend, d'avoir des gens qui leur ressemblent alentour d'eux et des personnes qui sont sur place, qui sont formées pour mieux communiquer avec des personnes aphasiques aussi.
Catherine Hébert-Mété est responsable des bénévoles. Elle est également outillée et ouvrier au service aux membres de l'Association québécoise des personnes aphasiques. Semble-t-il qu'il y a des ateliers chez vous?
Oui, il y a des ateliers de groupe, comme je disais tantôt un peu, c'est vraiment pour continuer à briser l'isolement, mais continuer à pratiquer aussi la différentes méthodes de communication dans les groupes.
Et de quelle façon? Qu'est-ce qui se passe au sein de ces ateliers-là?
Présentement, on a par exemple le début d'un petit journal. On veut y mettre de chacun des personnes qui participent avec leurs activités, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des projets qu'on peut... c'est plus le processus qui compte que l'objet final.
Mm-hmm. Donc, c'est le parcours, finalement.
Le parcours, ouais. C'est ça. Puis, toutes les manières sont bonnes. Là. Il y a des dictées trouées. Il y a des fois des analyses de films avec le scénario. Il y a plein de vie aussi avec des organismes alentour de nous. Aujourd'hui, on avait une activité de danse avec une invitée spéciale. On a
des activités photo, hein. J'ai vu des photos magnifiques qui ont été faites pendant l'été, je pense, que
oui,
vous avez cette
activité-là. Oui, à chaque été. C'est une excuse aussi pour aller se promener à l'extérieur ensemble. On mange, tout le monde apporte son lunch, puis on fait des photographies. Puis on a des thématiques un peu différentes à chaque année. Puis on peut présenter ces photos-là après à d'autres personnes.
C'est ça qui est agréable aussi. Mm-hmm. Ça fait quelque chose de concret pour pour se promener avec. Bon, souvent, hein, les gens vont faire des ateliers d'art visuel, mais la photo, c'est vraiment intéressant aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui passent par là.
Mais on est très ouvert aux suggestions aussi. Quand il y a des nouvelles personnes qui passent par la QPA, on n'est pas un milieu fermé. Le communautaire, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est flexible, puis on aime collaborer avec différentes personnes, apprendre des gens aussi. Donc, ça change un peu toujours la forme, je dirais, des ateliers. C'est ça.
Est-ce que c'est difficile de jumeler, justement, des personnes de provenances différentes, de groupes d'âge différents?
Pas tant que ça, non. Parce que les groupes sont très, très diversifiés. Même c'est mieux comme ça, parce qu'on ne voudrait pas avoir une classe complète de personnes qui ne parlent pas du tout.
Oui.
Puis, au contraire, des gens qui parlent beaucoup moins, mais ils vont quand même être à l'écoute d'autres. Puis, on va prendre le temps aussi d'essayer d'avoir un mot ou deux des personnes qui sont un peu moins jasantes.
Moins parlantes. Oui.
Ouais.
Donc là, on a le théâtre aphasique. On va avoir la maison aphasique. À quand le garage aphasique?
Le band de garage?
Le festival aphasique.
Wow!
Ben à quand le congrès?
Isabelle, le festival, ça peut être... disais une niaiserie, là, mais ça peut être intéressant.
Là, ça se peut, certainement.
Ouais. Ouais. Catherine Hébert-Mété, merci beaucoup d'avoir décidé de passer par chez nous.
Merci à
Catherine.
Vous.
Elle est responsable des bénévoles et des services aux membres de l'Association québécoise des personnes aphasiques. On revient tout de suite après la pause.
Accès libre.
Avec Isabelle Côté pour le mois de novembre, elle qui est directrice du Théâtre aphasique, à la mise en onde Mathieu Tessier, Anne-Laure Janson est à la recherche et Kevin Breton aux réseaux sociaux. Mon nom est Luc Fortin et nous sommes en compagnie de Ghislaine Clairet de Langavant qui, elle, est commissaire adjointe à l'éthique et à l'appréciation pour le commissaire à la santé et au bien-être. Et porte-parole du dossier qui nous intéresse, à savoir ce sondage et surtout cette longue étude qui devrait porter sur une douzaine de mois où on parle, comment appelle-t-on ça, Ghislaine, du panier de services, quelque chose comme ça?
Oui, c'est le panier de services, c'est en fait l'ensemble des services, activités et biens qui sont couverts par le régime public.
Avant qu'on aille plus loin, le rôle du commissaire à la santé et au bien-être, qui a créé et surtout pourquoi a-t-on créé le poste? C'est en 2006 d'abord.
Oui, le commissaire à la santé et au bien-être a été créé par loi en 2006 et l'objectif principal, c'est pour apprécier la performance du système de la santé et des services sociaux et de promouvoir les délibérations, les débats publics au sujet des enjeux liés au système de santé et de services sociaux. Il fait des recommandations pour améliorer la performance au ministre de la Santé et des services sociaux qui a 30 jours pour déposer les recommandations à l'Assemblée nationale où il doit y rendre des comptes sur les recommandations que l'on lui fait à chaque année.
Est-ce que c'est un organisme apolitique, neutre? Est-ce que c'est payé par le gouvernement? Ou parce que, bon, il y a, je pense à Recyc Québec qui n'a pas nécessairement à avoir des ordres du gouvernement. Ou j'essaie de voir où vous vous situez.
C'est un organisme gouvernemental, mais qui est indépendant dans le sens que nous choisissons les sujets que l'on veut aborder. Et en fait, on n'a pas de pression, que ce soit du ministre ou du ministère de la Santé. On leur fait des recommandations au ministre et lui doit rendre des comptes. Il dépose à l'Assemblée nationale et doit dire ce qu'il doit faire avec les recommandations qu'on lui fait. Donc, on est indépendant du ministre et du ministère de la Santé.
Et donc, d'où provenait la commande pour ce sondage-là?
Il n'y a pas eu de commande. Ah. C'est une initiative du Bureau du commissaire à la santé et au bien-être. Nous faisons des rapports donc, d'appréciation de la performance depuis 2007. Et après notre premier cycle de rapports, nous avons consulté largement les acteurs du système pour savoir quels étaient, d'après eux, les sujets prioritaires que nous devrions couvrir pour le prochain cycle de production. Et puis, le panier de services est ressorti comme étant un enjeu prioritaire et qu'il faudrait qu'on s'y penche. En effet, nous savons qu'il y a de plus en plus de pression au niveau du système. On sait que les coûts augmentent, que les demandes augmentent au niveau des besoins de la population. Et puis, il y a les facteurs démographiques et l'introduction de nouvelles innovations technologiques qui font qu'il y a des pressions de plus importantes et qu'il y a des choix difficiles qui vont être faits et qui sont faits actuellement tous les jours, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international. Et donc, c'est difficile. On essaie de soutenir ou de guider ces choix qui devront être faits par l'introduction de ces nouvelles technologies ou de ces services dans le panier de services. Et le commissaire voulait s'assurer que les valeurs et les préoccupations des citoyens soient prises en compte dans ces décisions qui se font tous les jours.
Et donc, ce sondage-là sera remis avec des recommandations au ministre de la Santé?
Non. En fait, le sondage fait partie d'une large approche, d'une multiple approche de consultation que l'on va faire. Il y a le sondage, il y a eu des groupes de discussion. Actuellement, il y a un appel de mémoire qui a été lancé hier, en fait même. Les gens et toute personne, association, groupe ou organisme sont invités à répondre à cet appel de mémoire jusqu'au 29 janvier 2016. Il y aura aussi des délibérations plus larges qu'on aimerait mettre en marche aussi sur l'Internet. On n'a pas encore l'approche méthodologique exacte qu'on veut adopter, mais on voudrait élargir aussi à d'autres membres de la population pour que tout le monde puisse vraiment participer activement à cette délibération, à cette réflexion-là. On va aussi consulter des experts. Donc, il y a vraiment plusieurs approches et suite à toutes ces approches, nous allons pouvoir essayer de rendre compte justement des valeurs, des préoccupations des citoyens et pour qu'ils soient systématiquement pris en compte lorsqu'il y a des décisions qui sont prises à cet égard.
Si ça peut vous rassurer, je ne sais pas si vous avez besoin d'être rassuré, mais bon, Isabelle et moi avons sursauté lorsque nous avons vu l'article dans le journal et lorsqu'on a commencé à prendre compte du questionnaire, du mini-sondage. Par contre, pour avoir fait quelques appels, même à un député de l'opposition, les gens me disent « ben c'est assez habituel ce genre de sondage-là, c'est pour aiguiller ». Bon, tous étaient d'accord que peut-être que les questions parfois pouvaient être malhabiles, mais que dans l'ensemble, c'était nécessaire d'avoir un genre de consultation comme celui-là. J'aimerais, avant de revenir sur les questions du sondage qui en ont fait sursauter plus d'un et qui ont suscité quelques articles, peut-être Isabelle, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, là, nous donner une petite idée.
Bien, en fait, je peux peut-être vous lire une question. On
Allez-y
en a discuté
donc.
La semaine passée. On a reçu la représentante de Autisme Montréal qui était un peu en colère à la suite de la parution du sondage. Et elle faisait référence à la question 4 qui dit « Imaginons un nouveau service social, par exemple pour l'autisme ou un trouble de comportement, qui améliorerait le fonctionnement et l'intégration sociale des personnes, mais dont les données scientifiques montrent des effets modestes souvent parce qu'ils sont difficiles à mesurer. Alors, sur une échelle de 1 à 10, on doit signifier si on est d'accord, plus ou moins, ou totalement. Et là, les réponses sont un peu tendancieuses, où là, on nous dit, d'abord, on devrait tout faire pour aider ces personnes, même si les effets semblent modestes. Deux, on ne devrait pas rembourser ce service parce que les effets sont modestes, même si cela pouvait entraîner une mauvaise utilisation de médicaments pour compenser. Trois, on devrait répondre de façon égale autant aux besoins des personnes ayant un problème psychosocial qu'aux besoins des personnes ayant un problème physique. Quatre, avant d'investir dans ce service, on devrait tout d'abord s'assurer jusqu'à quel point l'État en aurait pour son argent. Je trouve ça très drôle, je m'excuse, mais en avoir pour son argent en santé, il n'y en a pas d'argent à faire avec la santé, mais bon, je continue, je m'excuse. Avant d'investir dans ce service, on devrait savoir si ce service diminue en plus la charge des proches aidants et on devrait permettre que l'État rembourse ce service uniquement si d'autres solutions n'existent pas pour ces personnes. Alors, la dame de Autisme Montréal était tout à fait en désaccord et d'autant plus qu'on a mêlé l'autisme comme exemple là, à cette question-là.
En le qualifiant de problème psychosocial.
Entre autres, oui.
Ce qu'elle disait n'était pas, mais absolument pas le cas. Qui a écrit les questions?
Est-ce que je peux répondre?
Oui, allez-y.
Est-ce que je peux répondre par rapport aux trois éléments qui ont été amenés?
Oui, oui.
Par rapport aux exemples, aux mises de situation, l'autisme et les réponses tendancieuses?
Bien sûr.
En ce qui concerne les exemples, c'est clair que nous avons choisi, le commissaire a choisi de mettre de faire des mises en situation concrètes afin de rendre de manière explicite certains éléments qui font que parfois ces décisions sont particulièrement difficiles à prendre. Chacun de ces situations existe et ces éléments qu'on a fait ressortir sont les éléments qui parfois qui font que sont très difficiles à prendre. On voulait aussi donner des exemples concrets qui permettaient aux citoyens d'apprécier le genre de situation réelle où ces questions pourraient se poser. C'était pas tant la réponse à chacune de ces questions-là qui sera prise en compte par le commissaire, mais plutôt les critères, c'est-à-dire les facteurs qui sont cités là, à savoir lesquels sont valorisés le plus par les citoyens et à savoir si ça change d'une situation à l'autre. Le cas de l'autisme a été choisi comme un exemple et a été mis dans la section des services sociaux parce que les interventions dans le système de santé de services sociaux sont majoritairement de nature d'un service social en ce qui concerne l'autisme. On a voulu utiliser l'autisme parce qu'on trouvait l'importance justement, on voulait, les services sociaux sont souvent un parent pauvre dans le système de santé et on voulait mettre un exemple que beaucoup de gens connaissaient et qui était important justement, on voulait montrer l'importance de ces services-là. Et c'était la raison pour laquelle on a mis l'autisme. En ce qui a trait aux réponses tendancieuses que vous avez lues, il s'agit en fait de critères qui sont utilisés tous les jours pour l'introduction, le maintien et le retrait de services dans les paniers de services. Nous les avons formulés sous forme de phrases pour que ça soit plus compréhensible, plus accessible pour les citoyens, mais en fait, ce sont des critères qui sont toujours utilisés. C'est quoi le bénéfice supplémentaire? C'est quoi la gravité de la maladie? Le nombre de personnes touchées? L'urgence? L'absence d'un autre soin efficace? Est-ce que l'importance des coûts? Est-ce qu'on a des bénéfices par rapport à ces coûts? Tous ces critères sont utilisés tous les jours pour l'introduction de services dans les paniers de services. C'est pour ça qu'on a utilisé ces différents facteurs. Ce n'est pas parce qu'on cherchait à avoir une réponse quelconque. C'était pour voir quel de ces facteurs était plus important dépendant de chacune de ces situations.
Est-ce qu'habituellement, on a le résultat, et peut-être que oui, là, parce que je pense à la loi 20 là, qui a été adoptée cette semaine et à tout ce qui est procréation assistée. Assurément qu'on s'est posé des questions et qu'on a sondé une partie de la population, à savoir, bon, et Dieu sait que là, il y a c'est facile de faire l'équation, bon, tel âge, combien ça vaut, les taxes pour l'enfant qui va naître éventuellement quand il va travailler et tout et tout. Est-ce qu'on peut avoir, disons, un aperçu de l'opinion des gens lorsque des sondages comme ça sont faits?
Mais en fait, comme je vous ai dit, nous ne cherchons pas de tirer des conclusions sur ce que pensent les citoyens par rapport au panier de services, par les réponses de ce sondage. Comme je vous dis, c'est une première étape. On va le compléter de beaucoup d'autres méthodes complémentaires qui ont d'autres forces, parce que chaque approche a des limites. C'est clair que là, on pose des questions extrêmement complexes dans un temps très limité.
Ouais.
Et puis, on ne cherche pas à avoir la réponse, oui ou non, on finance tel ou tel service. Ce n'était pas l'objectif de ce sondage. Je réalise cependant dans le contexte actuel et la façon que sont posées les questions que plusieurs personnes ont été heurtées et par la sensibilité de ces questions-là. Et le commissaire est foncièrement désolé que ces personnes aient été heurtées de par les propos qui ont été rapportés du sondage et même la façon que sont posées les questions. Mais il faut prendre en considération comment ces questions seront interprétées, comment on va l'utiliser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas la réponse en tant que telle de chacune de ces situations, mais plutôt quels sont les facteurs que les gens valorisent le plus par rapport à cette décision-là.
Parce que présenté comme ça l'est présentement, c'est certain que ça peut bousculer. Nous, ça donne l'impression, sans avoir l'information qui vient avec ça, on a l'impression que tout d'un coup, on met sur la place publique les grands enjeux, puis on demande à monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas nécessairement tous les dossiers de décider pour le ministère, de décider où ira prochainement l'argent au niveau de la santé, puis allons-y avec les grandes lignes. La plupart des gens connaissent plus ça, on y va vers ça, et puis
on a
des préjugés.
Je comprends tout à fait comment les gens, on peut interpréter, surtout de craindre qu'on pourrait prendre les résultats de ça, puis de les donner. Bon, bien, il y a tant de citoyens qui pensent que tel ou tel service est plus important. Mais ce n'est pas du tout la façon que ces résultats seront utilisés. Et j'aimerais calmer en fait cette impression-là, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire avec ça. Mm-hmm. Au contraire, on cherche à pouvoir rendre compte des valeurs des citoyens, de leurs préoccupations, pour qu'elles soient systématiquement prises en compte, parce qu'elles ne le sont pas. Actuellement, ces décisions se prennent et sur des critères qui sont parfois implicites. On ne sait pas trop sur quels critères. Et ce sont des décisions difficiles, puis on voudrait absolument que les citoyens fassent partie prenante de ces décisions-là. Donc, il faut qu'on les pose, les questions. Et il faut qu'on puisse susciter un débat de société, mais on veut le faire de façon responsable. Ça serait totalement irresponsable de donner les résultats de ce sondage et dire ben, les citoyens pensent ça. Ouais, c'est beaucoup trop important, beaucoup trop sensible, et un sondage n'est qu'une approche avec ses faiblesses propres.
Oui, j'aimerais vraiment voir ça, les résultats, mais vous avez raison que c'est préférable que je ne le sache
ça
pas.
Ça serait irresponsable.
Oui, vous avez tout à fait raison. Mais je suis curieux, Marie. Maintenant, est-ce qu'il y a un échéancier? Vous devez déposer un rapport devant les élus de l'Assemblée nationale à l'automne 2016. Est-ce qu'il y a une date?
Le rapport sera déposé à l'automne avant le départ du commissaire actuel qui finit son mandat. Ça sera déposé en août 2016, les résultats de ce premier volet pour le panier de services, parce qu'il y aura d'autres volets qui vont suivre. Nous avons déjà une idée de ce que ces autres volets vont comprendre, mais nous aimerions aussi recevoir les points de vue des citoyens à l'appel de mémoire qu'on a lancé, savoir quels seraient les points, les éléments, les enjeux que les citoyens voudraient de façon prioritaire qu'on aborde. Donc on veut prendre en considération ces éléments-là avant de déterminer de façon spécifique quels seront les autres volets, mais le premier, c'est réellement les valeurs et les préoccupations des citoyens par rapport à l'introduction de services dans ce panier de services.
Allez-vous avoir terminé vos vacances en août 2016? Parce que ce serait sympathique.
On va prendre des vacances.
Je sais pas.
La question se pose.
Je vous le souhaite. Mais ce serait vraiment sympathique qu'on puisse se parler à tout le moins, peut-être début décembre, là, mais parce que c'est pas tout le monde dans notre public cible qui ont accès au web. Je sais que ce sera affiché sur le site, mais en tout cas, si c'était possible, on essaiera de
Actuellement, c'est sur notre site, l'appel de mémoire, le guide de consultation qui l'accompagne. Aussi, on aura des consultations, comme j'ai dit, des délibérations plus larges pour que les citoyens puissent s'exprimer, ceux qui ne pourront pas envoyer des mémoires, et puis des rencontres individuelles. Donc, on essaie vraiment de multiplier les approches pour vraiment essayer d'avoir leur juste. Parce que, comme vous dites, ce sont des questions sensibles et on ne doit pas faire ça n'importe comment.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ghislaine Claret de Langavant, parce que j'avoue, même si on ne devrait pas s'en préoccuper, parce que, bon, c'est public, mais je n'étais pas sûr que quelqu'un du bureau nous rappellerait, et merci beaucoup de l'avoir fait.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Elle est commissaire adjointe à l'éthique et à l'appréciation pour le commissaire à la santé et au bien-être. Et vous avez compris qu'elle est porte-parole de ce dossier bien précis que l'on va continuer à suivre. Mais comme on le constate maintenant, Isabelle, on ne basera pas les prochaines coupures ou les prochaines subventions à la lumière d'uniquement ces 1800 répondants.
Oui, j'espère.
Phew!
Oui!
On se paye la traite avec encore du Rufus et en lien avec le prochain segment où une troupe de théâtre parle de peur, d'intimidation, de discrimination, de... Et Rufus est tanné de l'Amérique.
I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired.
Une autre Catherine pour vous, Isabelle.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Catherine Bourgeois, qui est fondatrice et directrice de la compagnie de théâtre Joe, Jack and John depuis 2003. Bonjour.
Les trois J, finalement.
Voilà, oui. Ouais. Bonjour.
Ah oui, je débaptise toujours.
Non, non,
quand
non.
J'en parle, j'ai... je pense un peu volontairement, je trouve ça drôle. Dites-moi, vous êtes là donc depuis 2003, et quel est le mandat artistique exactement de Joe, Jack and John?
Donc, Joe, Jack and John, on s'est donné le mandat. À la Fondation. De...
Juste vous rapprocher un petit peu du microphone, okay. Catherine.
Merci. On s'est donné le mandat donc de faire du théâtre avec des distributions atypiques, puis donc un théâtre de création, mais qui inclut des gens de divers horizons dans les créations, entre autres des gens qui ont une déficience intellectuelle. Donc, voilà. Puis c'est de faire un théâtre professionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup de troupes amateurs, semi-professionnelles qui existent avec ce créneau-là. Donc, vraiment un théâtre inclusif qui allie des acteurs professionnels de différents horizons. Puis on va chercher surtout nos acteurs au Muse, qui est un centre, qui est une école, un centre d'art pour des gens qui ont une déficience ou un trouble de développement, où est-ce qu'ils apprennent en fait les métiers de la scène, donc le chant, le mime et tout ça. Donc tous nos acteurs vedettes sont issus des Muses.
Ah, c'est bien. Et là, vous avez une nouvelle production qui s'appelle « Je ne veux pas marcher ».
Celle.
Je ne veux pas marcher seule. Ouais. Parce que vous avez comme thème la peur. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ce thème-là?
Mais il y a environ 2 ans, dans les médias, il y avait comme il y a plusieurs histoires de, au niveau des États-Unis qui sont ressorties d'adolescents afro-américains qui se sont fait comme tués par des hommes blancs armés, donc des adolescents innocents, sans armes, qui voilà, ont comme instigué un peu la peur chez des gens. Puis ça m'a vraiment comme... Ça a piqué ma curiosité, en fait, de voir comment un homme avec une arme à feu sur lui peut se sentir intimidé, puis même que sa liberté puis sa sécurité soient remises en cause face à un adolescent. Donc, quel est le filtre qui intervient dans le regard de quelqu'un qui peut tout d'un coup voir le démon ou le danger dans un jeune innocent?
Et là, c'est incroyable ce qui arrive cette semaine, parce que vous ne pensiez pas être autant d'actualité avec... Ouais. Avec ce qui s'est passé la semaine passée, là.
Non, oui, c'est ça, tout à fait.
C'est fou, hein, d'arriver comme... avec un spectacle qui traite de la violence et de la peur comme ça, alors qu'on est dans une période absolument incroyable au niveau de la violence et justement de la peur.
Oui, puis de la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. On entend beaucoup de réactions par rapport à ces réfugiés syriens-là qui s'en viennent, à savoir... Donc, on a vraiment peur... c'est sûr que c'est large comme sujet, la peur, donc la xénophobie aussi, le racisme, toute une espèce de discrimination face à l'autre, mais le spectacle n'a pas la prétention, en fait, de donner des pistes de solutions, mais plus de poser des questions par rapport à tous ces... à ce thème-là, à quel est, en fait, notre rapport à l'autre, notre rapport à l'inconnu, à l'étranger et tout ça, donc... voilà. Donc, c'est vraiment très large comme sujet. Puis, en même temps, on essaye aussi de raconter un peu une histoire à travers tout ça, qui est celle du personnage d'Edon.
Catherine Bourgeois, vous dites qu'il y en a plus d'une troupe qui donne à la personne avec une déficience intellectuelle l'occasion de jouer, mais vous n'étiez quand même pas obligée de le faire. Pourquoi l'inclusion?
Moi, je pense que j'ai vraiment un intérêt pour entendre... quand on termine l'école de théâtre, tout ça, là, habituellement, on se fonde une compagnie entre finissants d'une même cohorte. Donc, j'avais pas vraiment cet intérêt-là de fonder une compagnie avec des jeunes de mon âge, de mon background, qui ont à peu près la même vision du monde que moi. J'avais le goût, à travers le travail, de rencontrer des gens qui venaient d'autres horizons. Puis, en fait, au-delà de la déficience intellectuelle, on inclut souvent des gens qui, en fait... J'engage des acteurs qui sont issus de l'immigration, qui ne parlent pas nécessairement français comme langue première. Donc, il y a vraiment une mixité au niveau des accents, des présences, des types de jeux, tout ça. Donc, c'est vraiment pour un intérêt d'entendre d'autres points de vue sur un sujet. Parce que là, on traite de la peur, mais je crois que c'est intéressant d'avoir différents points de vue sur la peur. Ou c'est un autre sujet aussi. Donc, ça alimente le travail, ça alimente la création.
C'est pour ça que le spectacle est multilingue aussi. Il y a trois langues.
C'est principalement en français, oui, mais il y a une actrice, danseuse, qui fait partie de la distribution, qui est américaine. Donc, elle a un petit bout en anglais. C'est sa langue maternelle. Puis ensuite, le personnage principal d'Edon est originaire d'Haïti. Donc, il y a un petit peu de créole, mais rien pour... rien pour rendre la pièce incompréhensible. Mais c'est vraiment des petits accents, des petites phrases en créole ici et là.
On me dit que la peur était même, disons, dans le contexte du lieu. Vous avez non seulement mis la peur comme thème sur la scène, mais on intervient avec le public. On a choisi un lieu dans un cul-de-sac pour tester un peu les nerfs des spectateurs qui se rendaient au lieu. Donc, tout est pensé chaque fois chez vous?
Oui, tout est... Ah, oui, en fait, j'aime les propositions de spectacles in situ, donc qui nous sortent des théâtres. J'aime ça, être amenée à aller dans des lieux non théâtraux pour voir des spectacles, ce genre d'occupation-là artistique.
Ouais.
Puis je trouvais qu'avec la thématique de cette pièce-là, c'était intéressant justement de sortir un peu les spectateurs de leur zone de confort. C'est pas un quartier dangereux, c'est pas une rue dangereuse, il y a aucun danger là, mais en même temps, c'est vrai que c'est une rue beaucoup moins fréquentée que la majorité des théâtres. Puis, donc, il y a cette... Puis donc, de se rendre aussi dans un lieu qu'on connaît pas, donc cette question-là de l'inconnu, de se confronter à quelque chose qu'on connaît moins, ouais. Ça fait partie aussi de la démarche. Donc, le spectacle commence dès le trajet, en fait, pour s'y rendre.
Je veux pas mettre du vinaigre dans votre... chocolatine, mais bon, c'est sympathique, c'est au troisième étage par contre. Est-ce que c'est accessible aux personnes en fauteuil roulant? Parce que vous voulez offrir une inclusion aux comédiens, mais on se demande, est-ce que les spectateurs, eux aussi, sont... Est-ce que c'est inclusif pour le spectateur ou on a mis plus d'efforts sur l'aspect émotif, si on
veut? Non, il y a un ascenseur.
Yeah.
Donc, c'est adapté.
Oui, oui, tout à fait. Oui, ça fait partie vraiment des valeurs de la compagnie. L'inclusion, donc oui.
Et... Il n'y a pas de vinaigre sur la chocolatine?
Non, voilà. Non, c'est pas une expression que je connaissais.
Moi non plus.
Non, ça ne doit pas être bon de toute façon. Et donc, vous avez déjà commencé, je comprends bien,
oui,
vous avez déjà eu l'avant-première.
L'avant-première, la première hier soir. Donc, ce soir, c'est la première médiatique. Ça va bien. C'est pas un spectacle qui... Où est-ce qu'on... en fait, qui n'est pas nécessairement léger, c'est sûr, mais en même temps, c'est un spectacle qui fait réfléchir.
Jusqu'au 5 décembre?
Jusqu'au 5 décembre, voilà.
Jusqu'au 5 décembre. Allez sur le Joe, Jack et John.com. Catherine Bourgeois, merci.
Merci beaucoup.
Merci
Isabelle Côté,
vous.
Il nous reste une semaine.
Merci.
Bonne semaine d'ici là, vous à la maison.